Marie-Alexis, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici au lycée français de Barcelone. Vous êtes illustratrice et aussi vous écrivez vos propres histoires et vous avez gagné un prix à Angoulême. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bonjour Déborah, bonjour Anne et Nouria qui m'accompagne, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invitée à cette interview, ça me fait très plaisir. Pour répondre à ta question, effectivement, j'ai gagné un prix à Angoulême. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, on va développer. C'est-à-dire que j'ai participé à un concours organisé par le dessinateur de BD Olivier Ledroit, qui organise tous les ans, depuis 2 ans, grâce à son association, un concours de bande dessinée pour mettre en avant les artistes autistes. Car il est lui-même concerné par le sujet avec son fils. Donc il a décidé de monter une association et de profiter de sa notoriété pour mettre en avant les artistes autistes et puis d'organiser aussi des bourses pour financer des artistes autistes, des jeunes qui ont des difficultés à simplement suivre des parcours scolaires classiques de par leur particularité. Donc j'ai participé cette année à son concours. J'ai gagné la 4e place, ma participation, et suite à ça, il a participé au financement de ma BD, Le Bleu. J'ai mis en avant aussi son association dans le cadre de ma BD, donc du coup, j'ai gagné son prix, ce qui était inespéré pour moi, parce que c'est quelqu'un dont je suivais le travail déjà, moi, quand j'étais ado. C'est-à-dire que du coup, Olivier Ledroit, aujourd'hui, il est au sommet de son art, mais il y a une époque où ça a été un petit peu plus difficile pour lui de faire sa place, car il a un style assez baroque, qui n'est pas classique, en fait, dans la BD. Et j'ai trouvé sa démarche très humaniste.
Votre BD Le Bleu traite de l'autisme. Comment ça vous est venu de parler de ce sujet et par quel procédé vous abordez ce sujet à travers votre BD ?
Tout simplement, j'ai été diagnostiquée moi-même autiste à 37 ans. Donc en fait, à force de m'informer sur le sujet pour comprendre un peu plus mon état, j'ai eu cette envie de transmettre des informations pédagogiques aux personnes soit qui sont concernées par le sujet, soit encore mieux pour des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet et qui a envie d'apprendre. Je trouve que la bande dessinée documentaire, c'est quelque chose qui a le vent en poupe en ce moment. À côté de mon travail de dessinatrice, je suis aussi bibliothécaire, donc je vois un petit peu plus aussi qu'est-ce qui attire le public, les lecteurs. Et la BD documentaire, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que, alors que ce soit des témoignages de voyages, et c'est des récits de guerre, mais aussi des sujets d'actualité et des sujets de, comment dire, scientifiques ou de santé. Beaucoup de gens n'ont pas forcément ni l'envie ni le temps de lire des gros livres documentaires ou simplement ils savent pas forcément où s'informer. Et du coup, de lire la bande dessinée, c'est un médium qui est quand même assez abordable et grand public et qui permet quand même beaucoup de liberté qu'on n'a pas forcément avec un livre juste écrit. Là, c'est-à-dire que du coup, bon, je mets de l'humour et je mets des petits dessins rigolos aussi pour parler du sujet. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas forcément se permettre avec un documentaire écrit. Et donc la BD documentaire rentre tout à fait dans cet attrait du lecteur actuel pour la bande dessinée documentaire, tout en restant quelque chose de pédagogique et d'informatif. Après, si les personnes ont envie d'approfondir le sujet, à la fin du livre, je mets aussi des références pour approfondir. Mais pour moi, ça conjugue bien deux aspects qui se complètent, c'est-à-dire l'attrait pour le public pour la BD documentaire et mon envie, moi, de transmettre des connaissances que j'ai moi-même accumulées en m'informant pour me connaître moi-même, en fait. Je me suis dit, bon, bah voilà, ces connaissances que tu as acquises, fais-en quelque chose pour du public qui voudrait s'informer.
Merci beaucoup. Vous parlez du fait que, pour vous, c'est important que les personnes autistes et les personnes non autistes puissent s'informer sur le sujet. Pourquoi est-ce que vous estimez que c'est si important que ces personnes-là s'informent ?
Je dirais que c'est important. Bon, déjà, parce que de manière générale, il y a une plus grande prise de conscience sur ce que le handicap de manière générale. C'est-à-dire que je sens que les gens ont à cœur, mais ça aussi, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'actions de sensibilisation. De manière générale, le handicap est quelque chose qui interpelle les gens de façon positive de plus en plus. Après, moi, dans un souci d'inclusion, je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre l'autre. Donc après, l'autisme, ça fait partie des troubles du développement psychique, en fait. Et c'est quelque chose qui est encore assez méconnu et des visions, en fait, encore très caricaturales et très clichées des personnes atteintes d'autisme. Alors qu'il y a énormément de sensibilisation sur les handicaps visibles, en fait. C'est-à-dire que les personnes en fauteuil roulant, les personnes qui ont des déficiences auditives ou visuelles. Je dis pas que c'est parfait, mais le public est plus facilement informé sur ces questions-là que tout ce qui est handicap psychique, Que ça soit l'autisme, ça peut être aussi les troubles TDAH ou les personnes qui ont des troubles borderline, la dépression, tout ça, c'est des choses qui sont des handicaps invisibles auxquels le public n'est pas encore assez bien informé. Donc bon, forcément, je vais pas me mettre à la place de personnes qui sont concernées par d'autres troubles, c'est pas ma connaissance, donc moi je fais fonction de mon vécu.
Est-ce que vous avez des recommandations d'autres livres, ou que ce soit des films, ou qui traitent de l'autisme et qui pourraient informer des élèves peut-être du lycée ?
Alors je vais avoir la dent peut-être un petit peu dure sur les films, c'est que c'est quelque chose dont je parle dans le livre, c'est qu'il y a encore beaucoup de représentations très clichés sur l'autisme. Les films très connus comme Rain Man, c'est un cliché autistique que les gens atteints d'autisme détestent. Alors moi je suis un peu plus mesurée sur Rain Man, c'est-à-dire que du coup effectivement il y a énormément de clichés que l'autiste c'est Dustin Hoffman, et en fait il n'y a pas un autisme, il y a plusieurs formes d'autisme avec différentes atteintes. On peut très bien avoir une hypersensibilité sensorielle au son, mais une hyposensibilité sur le toucher par exemple. Et il y a aussi au niveau intelligence, il y a des autistes qui sont hyper intelligents, d'autres qui ont des déficiences intellectuelles, mais c'est pas automatique. C'est comme, voilà, on s'imagine que l'autiste c'est forcément un surdoué. Non, il y en a qui sont pas forcément surdoués. Et il y en a qui sont pas forcément bêtes non plus. Au niveau représentation cinéma, c'est encore très cliché. Il y a Le cerveau d'Hugo, qui est un film qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est un peu moins sur les clichés, mais en fait, le problème, c'est que quels que soient les supports grand public, en fait, que ça soit les séries ou les films, on reste dans le cliché de l'autiste homme. En plus, parce que souvent les femmes, c'est très sous-représenté. Donc c'est souvent les hommes et c'est souvent le petit garçon non-verbal. Donc c'est un cliché autistique qui est largement répandu. Ça commence un petit peu à bouger. Il y a des petites séries qui commencent à mettre des petites filles autistes et tout. Mais on est encore dans le cliché du surdoué qui est fort en informatique. Alors forcément, il y a beaucoup d'autistes qui aiment l'informatique. C'est aussi un cliché. Hein. Moi, je suis nulle en informatique. Hein. Mais par contre, en matière de livres, vous avez les livres de Julie Daché. Elle a écrit notamment un livre qui s'appelle Dans ta bulle. Et elle a aussi écrit un livre très 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 connu. C'est une bande dessinée, donc elle n'a pas fait le dessin. Elle a travaillé en collaboration avec une dessinatrice qui s'appelle La différence invisible. Ça, c'est l'incontournable, j'ai envie de dire. J'ai moi-même commencé à me questionner sur mon état avec ce livre-là. C'est-à-dire que du coup, moi, je n'avais pas conscience de mon état. Et c'est ma psychiatre qui m'a diagnostiqué, qui m'a conseillé de lire ce livre-là. En fait, je pense qu'elle avait compris, parce que c'est une spécialiste de l'autisme. Et elle avait compris, je pense, mon état. Et en fait, elle m'a orientée en me disant « Mais vous devriez lire La différence invisible, c'est de la bande dessinée. » Alors, j'avais pas compris pourquoi elle me faisait lire ce livre-là. Mais je pense que son approche, c'était de dire « Elle va lire de la BD, comme c'est son univers, elle va accrocher. » Effectivement, j'ai accroché. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a des difficultés au quotidien et elle va finir par tomber sur un psychiatre qui va lui faire un diagnostic d'autisme. Et donc, du coup, tout son quotidien va se retrouver chamboulé, il va falloir qu'elle change de travail, et son compagnon va se rendre compte que c'est pas compatible avec ses besoins. Je pense que Julie Daché s'est beaucoup inspirée de sa propre vie pour raconter ça. Pour moi, c'est une bonne référence. Simplement, moi, j'ai pas voulu raconter ça. Moi, j'ai vraiment voulu faire de la bande dessinée documentaire. Donc, je mets quelques exemples de ma vie pour illustrer, par exemple, les propos sur l'hypersensibilité ou les difficultés sociales. Mais j'ai vraiment voulu sortir du témoignage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur l'autisme qui sont justement que des témoignages. Et j'ai voulu faire un petit peu autre chose. Sinon, vous avez les livres de Joseph Chovanec. C'est aussi grosse référence, c'est un jeune homme d'origine polonaise, il me semble. C'est un peu la superstar de l'autisme, il fait beaucoup d'interventions publiques dans les entreprises pour faire de la sensibilisation, etc. Et donc il y a un de ses livres qui s'appelle « Je suis à l'Est », comparaison avec « Je suis à l'Ouest », quoi. Donc Joseph Chovanec, il y a beaucoup de ses conférences que vous pourrez vous trouver facilement gratuitement sur YouTube, qui sont très intéressantes. Comme on dit, il prend des exemples, par exemple avec des cartoons, et il explique bah, Donald, pourquoi il est autiste, parce qu'il se comporte de telle façon et qu'il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Enfin bref, c'est très intéressant, c'est rigolo. Et puis sinon, vous avez un podcast, une chaîne YouTube qui s'appelle Bande d'autistes. Et c'est des podcasts radio, en fait, où vous avez une jeune fille autiste qui explique des choses sur l'autisme et elle a des invités qui parlent de leur autisme aussi, de leurs intérêts spécifiques, etc. Moi, je dirais plutôt ces livres-là. Après, il y a beaucoup de choses du témoignage, ça m'intéresse moins, mais bon, c'est des valeurs sûres, Temple Grandin ou Hugo Auriol. Je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de sensibiliser les gens avec de la documentation. Et sinon, il y a un livre qui est très bien aussi. C'est plutôt de la jeunesse, mais je trouve qu'il est très très bien pour tout public, qui s'appelle « Le train de la conversation ». Et c'est un livre qui explique comment se construit une conversation, En exemple, quand deux trains se suivent, ils sont sur le même rail et ils vont dans la même direction, s'il y en a un qui se met à parler d'autre chose, bah, la conversation se disloque et on n'est plus du tout en accord. Et donc, pour apprendre aux jeunes autistes comment entretenir une conversation avec une personne, c'est un bon exemple.
Merci pour toutes vos recommandations. Le livre « La différence invisible », il est disponible au CDI, pour ceux qui veulent le lire. Et moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de l'auto-édition et que vous auto-éditez vos livres. Et je pense que ça peut être un sujet intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça et comment ça fonctionne ?
Alors en fait, ouais, c'est gros dossier, hein. L'auto-édition, il y a plusieurs raisons en quelque sorte. En tant que personne autiste, et j'ai envie de dire en plus en tant que femme, se faire une place dans l'édition classique, surtout aujourd'hui, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir de la chance, il faut avoir du relationnel. Quand on est handicapé, quand on est une femme, eh ben c'est encore deux fois plus dur. Donc en fait, depuis toujours, ma scolarité, ça a été une catastrophe. C'était difficile, harcèlement scolaire et tout ce qu'on veut. J'ai pas eu la capacité financière et physiologique hein, d'aller faire des études supérieures. Pour l'édition, c'est la même chose. C'est-à-dire que du coup, pour démarcher des éditeurs, il faut faire des dossiers d'éditeurs, il faut se vendre, il faut socialiser, il faut faire des rendez-vous d'affaires, il faut rencontrer les gens en salon. Et tout ça, je ne sais pas le faire. C'est-à-dire que du coup, moi, quand j'arrive à faire des dédicaces dans un salon, moi, à la fin de la journée, je ne peux pas faire de rendez-vous professionnel. C'est pas possible. Et pourtant, tout ce qui est relationnel, c'est, je dirais, 65 à 70% de réseautage. C'est comme ça qu'on se fait une place dans un métier. Mais quel que soit le métier, c'est pas forcément que la BD. Quand on n'a pas ça, c'est un handicap. Moi, je l'ai pris conscience aussi avec mon diagnostic que tout ça, je me dis, mais pourquoi je travaille comme une acharnée et je n'y arrive pas ? Bah, j'ai compris aussi que, comme beaucoup de choses dans notre société, on est dans une société qui est validiste, donc on ne laisse pas trop sa place aux personnes handicapées. C'est un boys club, quoi. C'est-à-dire que du coup, c'est les hommes entre eux, et puis ils invitent les copains entre eux. Même des salons qui ont la vocation de mettre en avant les femmes artistes, eh ben, elles sont minoritaires dans le salon, et c'est même pas elles qui font les affiches pour les salons. C'est encore des hommes, c'est toujours le réflexe. On invite un mec, l'invité star, c'est un mec, et pourtant, soi-disant, il y a une volonté de mettre en avant les femmes. Donc l'auto-édition, j'ai pas le choix. Parce que faire des dossiers éditeurs, moi j'ai essayé une fois, on essaye une fois, deux fois, et puis en fait, les éditeurs, on peut pas les approcher. Alors peut-être j'aurais débuté ma carrière dans les années 80, ça aurait été différent. Aujourd'hui, envoyer un PDF, ils en reçoivent tellement, ils n'ont pas le temps de lire. Envoyer en manuscrit, c'est pareil. Et en salon, ils n'ont pas le temps, ils sont là pour présenter leurs auteurs stars. Ils sont inapprochables en fait. Donc soit c'est l'auto-édition, soit on ne fait rien. C'est un peu triste, hein. Il faut savoir se vendre, c'est-à-dire qu'un dossier éditeur, ce n'est pas juste présenter le travail, c'est convaincre. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, c'est un exercice social, comme tout réseau professionnel, c'est un exercice social. Et quand on n'a pas les codes, eh ben, on ne passe pas.
Merci pour votre réponse, c'est très 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 intéressant. Comme dernière question, j'aimerais vous demander si vous avez d'autres projets et si vous avez un message à faire passer à nos auditeurs.
Bon, j'ai plusieurs projets en cours. En fait, c'est le problème, je cours plusieurs livres en même temps. Mais je travaille actuellement à une autre BD documentaire sur la préhistoire, en fait, sur 10 idées reçues sur la préhistoire. Ça peut paraître sortir nulle part, mais pour moi, c'est la suite logique de ce livre-là, parce que du coup, l'autisme parle de diversité humaine. Et en creusant en fait cette question de diversité humaine, je me suis replongée dans la thématique de la préhistoire et des différentes espèces humaines qui se sont pas forcément succédées, qui ont cohabité en même temps. Et la question de la diversité humaine, et bien pour moi, elle est parallèle à la question du handicap, en fait. Donc j'ai voulu aussi essayer de comprendre d'où vient l'autisme, ce genre de choses. Donc ça m'a amenée à me pencher sur des sujets un peu plus scientifiques. Et donc, du coup, l'une des pistes à envisager actuellement, qui est en cours de recherche, c'est qu'il y a une influence des gènes de Néandertal en rapport avec l'autisme. Et d'autres potentielles pathologies, comme la bipolarité et la dépression, c'est quelque chose qui a priori pour être hérité de Néandertal. On a quand même 2% environ de gènes de Néandertal en nous encore actuellement. Donc du coup, j'ai creusé le sujet et j'ai trouvé ça tellement magnifique de se dire qu'il y a une époque où il y avait différentes espèces humaines, vraiment, hein, qui ont cohabité, plus ou moins bien, mais il y a quand même bien parce qu'il y a eu des métissages, sinon on serait resté pur homo sapiens, on n'est pas pur homo sapiens. Hein. Et donc du coup, j'ai voulu, un peu comme l'autisme, faire une bande dessinée qui détricote un peu toutes ces idées reçues qu'on a de la préhistoire, héritées du 19e siècle, faut quand même se représenter que les premiers préhistoriens, donc dans le 19e, étaient bercés par le sexisme, par le racisme. Et donc tout ça, ça a, comment dire, eu une influence sur leurs découvertes et leurs recherches. Par exemple, il y avait des squelettes, ils découvraient des squelettes avec des arcs, des armes, etc. C'était forcément attribué à un homme parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que ça pouvait être une femme. Et la génétique leur a donné tort, puisqu'ils ont découvert, par exemple, que là, ce qu'on appelle aujourd'hui la dame du cavillon, c'était une femme qui chassait, et c'était pas un homme. Donc, on a des fossiles comme ça qu'on changeait de genre, en fait. C'est hyper intéressant. Et pour moi, c'est un sujet qui a son importance encore aujourd'hui, parce que les questions de sexisme et de racisme, c'est très actuel. Et pour moi, il y a quand même des gens qui basent, en fait, leur réflexion sur le racisme et le sexisme, sur oui, mais ça a toujours existé comme ça, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été la domination masculine, ça a toujours été l'homme qui attrape la femme par les cheveux et qui la traîne jusqu'à la caverne. C'est faux, en fait. Tout ça, c'est des choses qui sont héritées du 19e siècle et qui ont influence encore aujourd'hui. En fait, il faut vraiment se représenter le temps comme quelque chose de très, 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 très important. Et à notre échelle de vie, si on vit 100 ans, 100 ans à l'échelle de la préhistoire, c'est que dalle, hein. Donc, du coup, c'est pas parce que ça existait d'une certaine façon aujourd'hui que ça a toujours été comme ça. C'est faux, il y a eu des femmes qui ont chassé, il y a eu des femmes qui avaient... Faut s'imaginer qu'une néandertalienne, c'était Amélie Mauresmo, quoi. C'était très musclé, très... Voilà, et en fait, la gracilisation du corps de la femme s'est faite qu'à partir du néolithique. Donc toutes ces questions-là, c'est pareil, j'ai trouvé que c'était important d'en parler, et pas juste dire, bah, les hommes des cavernes, c'était des abrutis qui s'habillaient dans la de peau de bête et qui n'étaient pas capables d'intelligence. C'est archi faux, et en fait, c'est une vision occidentale arriérée, en fait, de ce qu'étaient les hommes de ce temps-là. Et pour moi, c'est transversal à la question du handicap. Il faut aussi s'imaginer qu'on a retrouvé des fossiles avec des bras amputés ou des enfants qui avaient la trisomie. Et ils ont survécu. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'imaginer que... on s'imagine la préhistoire, on éliminait les plus faibles. C'est faux, en fait. Il y avait une entraide. Et celui qui ne pouvait pas aller chasser, eh ben, il était quand même protégé par le clan et il rendait service au clan. Donc c'est aussi cette question-là de se dire, une personne avec un handicap, elle a un fonctionnement différent. Et c'est pas pour autant qu'elle n'a pas sa place dans la société. En fait, on a tous quelque chose à apporter. C'est ça, je vais dire le message. En fait, on a, quelle que soit sa particularité, ses compétences, on a tous quelque chose à apporter. Et on peut tous être handicapé par rapport à quelque chose. Un handicap, c'est pas quelque chose en soi. On est handicapé par rapport à une situation. Quand on est dans le métro et que c'est trop petit, les gens qui font 2 mètres de haut, ils se cognent la tête, ils sont handicapés aussi. On est handicapé par rapport à une situation. Donc en fait, il faut pas s'arrêter et se dire que cette personne-là, elle a des difficultés sociales, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est incompétente. Simplement, il faut lui donner la possibilité de développer ses compétences dans un contexte qui lui est favorable. On est tous le handicapé de quelqu'un et on a tous à apprendre de l'autre.
Merci pour ce beau message. On est tous le handicapé de quelqu'un.
Oui.
Merci d'être venu encore une fois et j'espère peut-être qu'un jour qu'on vous reverra avec un autre livre.
Ça me ferait plaisir, effectivement. Et le livre, je vous en donne un exemplaire, donc pour un CDI, voilà, vous pourrez le consulter, il n'y a pas de souci.
Bonjour Nouria, alors il paraît qu'il existe une version en espagnol, tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, bonjour à tout le monde, tout le gens qui écoute sa belle radio de lycée. Je suis là en compagnie de Marie, qui a fait un super BD qui s'appelle El Azul, en espagnol. C'est moi qui ai fait la traduction. J'étais vraiment touchée en lisant sa BD parce que c'est un sujet qu'on ne connaît pas trop, surtout dans la femme. Et le machisme, non, qui utilise parfois ces mots pour insulter une femme. Et ça, c'est très moche. Et je l'ai vécu. Donc ça, j'étais touchée pour ça. Donc je suis contente de faire venir à Marie dans le festival Filles Comiques de Barcelone tous ces week-ends. L'argent, il était super intéressé. On avait fait une très bonne conférence. Ils ont fait des questions très intéressantes aussi. Et donc, j'étais là avec elle, en plein traductrice d'espagnol. Merci pour me donner la parole. Merci. Et merci pour l'invitation. Merci Anne. Et merci Marie.
Merci.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations,
to boldly go where no man has gone before.